Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hors-Champ, le podcast des cinéphiles de l'EJT. Pour ce premier épisode de la deuxième saison, nous allons profiter du Movember pour vous parler de santé chez les hommes. Océane nous plongera dans l'histoire de trois films dont les personnages masculins ont un rapport bien particulier avec la psychiatrie. Ensuite, Margot, notre fan d'Halloween qui n'a pas encore remis sa cape de sorcière au placard, nous parlera santé mentale et films d'horreur. Martin nous fera quant à lui le portrait de Nahuel Pérez Biscaillard, acteur du film 120 battements par minute, qui traite du sujet du sida. Pour finir, Lucas viendra nous parler d'un événement un peu spécial sur Toulouse ce week-end. Mais tout d'abord, on va commencer par revenir aux bases. Apolline, c'est quoi le Movember ?
Alors, Movember, c'est un petit mot valise qui mélange moustache et November, donc novembre, pour les moins bilingues d'entre nous. C'est un mouvement qui est né en 2003 en Australie avec deux copains, Travis Garron et Luke Slatery, qui se rendent compte que porter la moustache, c'est devenu mais complètement has-been, presque autant que de dire has-been d'ailleurs. Et avec une trentaine de volontaires, ils décident de la remettre à la mode, juste pour rigoler. Le mouvement prend de l'ampleur et arrive chez nous, en France, en 2012. À ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que la mode de la moustache, elle nous submerge, nous aussi, jusque dans nos armoires. Et là, autour de la table, je vous vois froncer les sourcils. Et j'imagine que c'est du stress post-traumatique parce que vous aussi, vous vous rappelez du t-shirt Will Smith avec une moustache dessinée sur le doigt que vous aviez forcé votre maman à acheter parce qu'il est trop cool. Sans commentaire. Bon, en réalité, cet effet de mode qui a été lancé, il a un intérêt. Dès 2004, à la suite de leur petite expérience, les deux copains australiens, ils se rendent compte que leur moustache, elle engendre des discussions. Et que cette attention qui leur est portée pourrait servir à sensibiliser le public aux questions de santé. Ce symbole typiquement masculin devient le point de départ de larges campagnes de dons dans différents domaines autour de la santé masculine, et notamment la recherche sur le cancer de la prostate. Après l'épidémie de Covid-19, la santé mentale devient également un sujet mis en avant pendant ce Movember. Donc à cause de novembre, c'est devenu un mois dangereux où tu risques à tout moment de voir débarquer ton crush affublé d'une petite moustache à la con, mais il permet chaque année de remettre au cœur du débat la santé mentale et physique des hommes, et ça, eh bien, ça n'a pas de prix.
Cette semaine, il n'y aura pas de critique de la semaine, mais Océane va nous parler de la représentation de la santé mentale des hommes au cinéma.
Et on lève le rideau sur le Joker, réalisé par Todd Phillips en 2019, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Le personnage d'Arthur Fleck, qui devient le Joker, ne reçoit pas de diagnostic spécifique pour sa maladie mentale. Il présente des symptômes de dépression, d'anxiété et de psychopathie, mais le film ne l'étiquette pas vraiment.
Et c'est justement ce qui a été recherché par le réalisateur ?
Oui. Todd Phillips a choisi de laisser sa maladie mentale du personnage indéfini pour mettre en lumière la complexité de sa condition. Dans cette œuvre, il explore comment la société et les circonstances influent sur la transformation d'Arthur en Joker, sans se concentrer sur un diagnostic spécifique.
Alors disons qu'ici, c'est réussi. Mais est-ce qu'il existe au cinéma des représentations biaisées de la santé mentale des hommes ?
Eh bien justement Audrey, le film Split, réalisé par Monsieur Night Shyamalan en 2016, met en scène un personnage atteint du trouble dissociatif de l'identité. Le problème est que le personnage principal, Kevin, a 24 personnalités, ce qui est relativement rare dans la réalité. Le TDI est un trouble rare où une personne représente plusieurs personnalités distinctes.
Et que pensent les professionnels de cette représentation ?
Certains professionnels de la santé mentale ont exprimé des préoccupations quant à la manière dont le film peut renforcer des stéréotypes négatifs sur la maladie mentale. Ils ont fait valoir que le personnage central est dépeint comme dangereux et violent en raison de ses différentes personnalités, ce qui peut contribuer à la stigmatisation des personnes atteintes de TDI.
Étant donné que les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, dit TDAH, sont plus fréquents au cinéma, est-ce qu'il existe des films qui traitent de ce sujet ?
Eh bien oui, le film Momie de Xavier Dolan a été présenté comme tel. Il retrace l'histoire d'une veuve monoparentale, incarnée par Diane Desprez, qui hérite de la garde de son fils, un adolescent impulsif et violent qui souffre d'un trouble de l'hyperactivité, incarné par Steve Desprez. Mais en réalité, ce film montre plus un personnage avec des troubles du comportement que de TDAH. On voit bien dans le film cette difficulté qu'a Steve à accepter les règles, les critiques et à supporter les frustrations. Mais aussi la facilité avec laquelle il se met en colère de façon extrêmement sévère et récurrente, souvent pour des motifs mineurs.
Et voilà, on a les droits. Pour pas cher à mon avis.
Novembre vient à peine de commencer et comme tous les ans à cette période de l'année, les films d'horreur ont la cote. Margot, tu t'es demandé pourquoi ces films qui nous foutent les frissons ont autant de succès en France ?
Oui, parce que pour les plus connus d'entre eux, on parle de millions d'entrées en France. Le premier volet du film Ça, par exemple, adapté du roman de Stephen King, a compté plus de 2 200 000 entrées. En 1973, c'est carrément 5,3 millions de Français qui se sont déplacés pour voir L'Exorciste. Alors en voyant ces chiffres, j'ai voulu savoir pourquoi les gens aimaient autant les films d'horreur. Jade Brancard est psychologue spécialisée en criminologie et victimologie à Toulouse. Elle explique.
D'un point de vue du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, il est plus rare pour la plupart des gens, en allant au travail, en travaillant, en rentrant du travail, d'expérimenter la peur au quotidien. Il y a un côté un peu agréable de venir stimuler une émotion qu'on ressent plus rarement aujourd'hui. Mais dans le confort de notre canapé, on peut arrêter le truc. On sait que le danger, finalement, il n'existe pas, c'est fictionnel. Et ça nous fait un peu de piment, quoi. C'est une petite recherche de sensations.
Et au-delà de la recherche de sensations, des études prouvent même que regarder un film d'horreur pourrait être bon pour la santé mentale.
Eh oui, car toujours selon Jade Brancard, regarder un film d'horreur, c'est 90 minutes où on prend un peu le contrôle sur ce qui nous fait peur ou nous angoisse.
Dans les films d'horreur, on est souvent attiré par des thématiques en particulier qui peuvent faire écho à des traumatismes ou alors à des angoisses qu'on peut avoir. Et une fois de plus, bah ici, on est spectateur, donc il y a une certaine de passivité, mais sur laquelle on a vraiment un contrôle, quoi. Si c'est trop dérangeant, on arrête. On n'atteint jamais un point de non-retour.
Et même si les films d'horreur peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale, la psychologue rappelle toutefois qu'il existe aussi des effets néfastes. Selon nos angoisses, nos traumatismes et notre étape dans le processus de guérison, les effets peuvent varier. Donc attention tout de même avant de se lancer dans un marathon de frissons.
Merci Margot et on remercie Jade Blancard d'avoir répondu à nos questions. Après les frissons, on passe désormais aux émotions. Martin va nous parler d'un acteur qui a changé son regard sur la masculinité dans le cinéma, et je ne pense pas qu'il soit le seul. Connaissez-vous le captivant Nahuel Pérez Biscayar ?
Oui, il n'a pas le nom le plus connu, mais quiconque l'a vu passer sur le grand écran a fini retourné. Nahuel Pérez Biscayar est la révélation de l'année 2017. Il joue une gueule cassée dans « Au revoir là-haut » d'Albert Dupontel. Mais surtout, il interprète le personnage de Sean, un homme séropositif, dans 120 battements par minute de Robin Campillo. Une performance qui lui a valu le César du meilleur acteur. Dans ces deux films incontournables, l'acteur argentin joue le torturé. La douleur, aussi physique que morale, est encore plus bouleversante dans 120 battements par minute. Sean n'a pas de blessure de guerre apparente, il est atteint du VIH et meurt donc à petit feu. Il trépasse quand même sur le front, celui du combat pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Nahuel Pérez Biscayar incarne un militant radical d'ACT UP, au cœur d'opérations coup de poing, comme l'infiltration d'un laboratoire qui l'asperge de faux sang. Il rencontre Nathan, joué par Arnaud Valois, fraîchement débarqué dans l'association. Tous deux vont nouer une relation intense, dans la mesure où les jours de Sean sont comptés. Rien ne peut le sauver, aucun remède n'existe. Leur seul refuge se trouve dans l'intimité. Celle-ci est filmée avec une grande poésie, loin des clichés de l'homosexualité masculine dans le cinéma français. Quand les militants se retrouvent en boîte de nuit, après des actions éprouvantes, cela laisse place à de magnifiques scènes. Les plans brumeux où Sean et Nathan dansent en complices sur la voix de Jimmy Somerville ont ému toutes les personnes spectatrices du film. À part son rôle dans Les Leçons persanes, Nahuel Pérez Biscayar a eu un coup de projecteur trop furtif pour le talent qu'il possède. Il continue malgré tout à tourner et à vivre dans la mémoire collective comme l'un des acteurs les plus marquants du cinéma LGBT. Il incarne l'une de ces nombreuses victimes du VIH dans les années 90, dont l'engagement est un cri de désespoir face à l'impuissance publique. Saisissant par sa justesse, sa sensibilité, sa fragilité, il est en même temps vaillant et charismatique dans sa lutte. Bien que le sida se traite beaucoup mieux de nos jours, son personnage nous rappelle l'importance de la prévention et du dépistage pour toutes sortes de relations. Chez Dupontel, sa souffrance morale de personnage défiguré se conclut aussi tragiquement puisqu'il se suicide. À travers ses rôles, Nahuel Pérez Biscayar nous invite à comprendre nos démons, qu'ils soient visibles ou invisibles.
« Et pour l'agenda des sorties, Lucas nous parle d'un événement qui a lieu ce week-end à Toulouse.
Et oui, ce dimanche à Toulouse aura lieu la course des Bacchantes dans le cadre du Movember. Elle est organisée par l'association Les Bacchantes Toulouse qui depuis plus de 10 ans a pour objectif d'informer, de sensibiliser et de soutenir la recherche contre le cancer de la prostate. C'est le cancer le plus fréquent chez les hommes et près de 60 000 cas ont été diagnostiqués en France en 2018.
Et en quoi la course des Bacchantes consiste-t-elle ?
Ben, comme son nom l'indique, c'est une course à pied de 8 km dont le départ se fera dimanche 5 novembre à 10h rue Viguerie. Les participants courront le long des quais en passant par les ponts Saint-Michel et le pont Saint-Pierre. L'arrivée se fera également rue Viguerie. Il s'en suivra un moment d'échange autour d'un buffet durant lequel les coureurs pourront tranquillement débriefer la course en mangeant des petits fours. Et à 11h30, il y aura la remise des récompenses et la fin de l'événement est prévue à 13h.
Et est-ce qu'il est nécessaire d'être entraîné comme une bête pour y participer ?
Non, absolument pas. Tout le monde peut participer, peu importe son niveau. On peut tenter de réaliser la performance du siècle ou bien décompresser de sa semaine en trottinant tranquillement sur les bords de Garonne. L'essentiel, c'est de participer. Et si, comme moi, courir, c'est pas votre truc, vous pouvez même marcher simplement. Au lieu de faire 8 km, vous n'en ferez que 4 et tout le monde se retrouvera à l'arrivée en même temps pour les petits fours. Il y aura par ailleurs un dress code à respecter, c'est le port de la moustache, qu'elle soit naturelle, collée ou bien dessinée. Les fonds collectés durant l'événement iront dans la recherche contre le cancer de la prostate. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous ne pouvez pas participer ce week-end, d'autres courses sont organisées ce mois-ci, à Paris le 11 et à Aix-en-Provence et Nantes le 19. Et vous pouvez également faire des dons, donc des dons à l'association Les Bacchantes via leur site internet lesbacchantes.org. Et je crois qu'on a une participante pour dimanche, Océane. Alors, quels sont tes conseils pour réussir une course ?
Eh bien, moi, mes conseils, c'est de bien dormir, bien manger, sans oublier les protéines et évidemment courir 10 km tous les deux jours avec ma meilleure copine de course, Angela, actuellement à la régie. Coucou Angela ! En tout cas, n'oubliez pas, tout est dans la tête et dans la moustache, alors foncez mettre vos baskets.
On encourage Océane et sa belle moustache dans sa course. C'est la fin de cet épisode d'Hors-Champ. Merci à toutes et à tous. Merci Angie à la régie et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.